Alors maintenant, nous voilà dans un blocus d'une ligne Maginot syrienne d'avant la guerre des Six Jours. Il a gardé un grand intérêt touristique, vous voyez. Je ne connais pas de point où on voit comme ça le lac. Il n'y a aucun angle mort. On le voit dans sa forme harmonieuse, d'où vient son nom de Kinneret. Kinnor, c'est la harpe dont se servait David là, pour jouer de la musique devant Saül. Nous sommes dans le paysage que Dieu a choisi pour sa révélation en plénitude. Nous l'avons entendu dans les éclairs et dans le tonnerre, là-bas dans les paysages impressionnants du sud. Mais ça n'est pas là. Je vous ai dit que nous passons notre vie à inventorier toutes les modes que Dieu a de nous parler. Eh bien, cette façon de parler de Dieu dans les éclairs et dans le tonnerre n'est pas la dernière. Dieu qui n'a pas besoin de paraître, et il a choisi ce paysage en dessous du niveau de la mer, là, humble et harmonieux, pour donner sa révélation en plénitude. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. C'est le début de l'épître aux Hébreux. Alors, ce mouvement de la mémoire qu'on a expérimenté tout au long de cette retraite, ce parcours, ici, on l'expérimente au maximum. On a pris les choses au commencement, vous vous rappelez ? Ensuite, on les a pris au plus profond. On a continué notre progression en passant de Moïse à Jésus-Christ. Et au fur et à mesure que nous progressons dans le temps, on ramasse le passé pour l'intégrer dans un élan vers l'avenir. Prenez Saint Matthieu, là, sa généalogie, au début. Et là, tandis que le premier chapitre de la Bible est autour du chiffre 7, le premier chapitre de Matthieu, là, à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament, est autour de 14. 2 fois 7, on étudiera le prologue de Saint Matthieu à la charnière de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lui, il se contente de remonter jusqu'à Abraham, pas pour reprendre toute l'histoire, montrer l'accomplissement des promesses faites à Abraham. Saint Luc, avant le baptême de Jésus, prend une généalogie qui remonte, lui, jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Et alors, Saint Jean, au sommet de la pensée néo-testamentaire, lui, reprend les choses au commencement, Bereshit. Commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Mais le Verbe était avec Dieu, ici, prostéon, en relation, en élan vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et clame, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. » Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître, exegesato. Et c'est pas seulement le faire connaître du point de vue intellectuel, spéculatif. Je crois que le sens primitif du verbe en grec, c'est nous conduit vers le Père. Encore une fois, tout le périple que nous faisons est dans ce prostéon-là. Nous sommes à l'image de Dieu en voyage vers Dieu, ce qui se ressemble s'assemble. Nous étions en panne, embourbés dans le péché, dans les servitudes, dans les aliénations. L'image, au sens le plus parfait, dans le mystère même de la Trinité, en élan vers le Père, a comme détourné son élan vers le Père pour faire ce parcours. On a fait tous les détours en profondeur et en surface pour être sur la trajectoire de Dieu qui passe. Et maintenant, il nous conduit. Il nous explique pas seulement de façon intellectuelle le Père, exegesato, mais il nous conduit vers le Père. Et à la fin de l'évangile de Saint Jean, je remonte vers mon Père devenu votre Père, vers mon Dieu devenu votre Dieu, c'est le même pros qui revient. C'est ça tout le voyage que nous faisons au sens plénier. Et nous, on peut voir ici un accomplissement de la littérature de sagesse dans l'Ancien Testament, qui déjà soupçonnait quelque chose de ce mystère pleinement révélé dans le Nouveau Testament. La sagesse dans l'Ancien Testament est hypostasiée, elle est personnifiée, et c'est encore une créature. On n'a pas encore le dépassement, le Verbe était Dieu, mais c'est une créature qui existe avant la création du monde. Elle joue devant Dieu et elle inspire Dieu créant le monde. Et lorsque le monde est créé, elle vient converser avec les enfants des hommes. Vous lisez ici le chapitre 8 des Proverbes. Dieu m'a créé, prémisse de son œuvre, Réchit d'Arco, comme Bereshit. Avant ses œuvres les plus anciennes, dès l'éternité je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes. Avant que fussent implantées les montagnes, avant les collines, je fus enfanté. Avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, quand il a fermé les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer et les eaux n'en franchiront pas le bord, quand il traça les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le jour en sa présence, m'ébattant sur la surface de la terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. Et alors la sagesse invite à un festin. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Qui me trouve, trouve la vie. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a abattu ses bêtes, préparé son vin, elle a aussi dressé sa table, elle a débêché ses servantes et proclamé sur les buttes en haut de la cité, qui est simple, qu'il passe par ici. À l'homme insensé, elle dit, venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé, quittez la niaiserie et vous vivrez, marchez droit dans la voie de l'intelligence. Il y a pas mal de textes comme ça où la sagesse dans l'Ancien Testament est déjà hypostasiée. Et la sagesse est un sommet de la littérature de l'Ancien Testament. Il y a un sommet qui frôle encore de plus près le Nouveau Testament, c'est le chapitre 24 du Siracide. Vous irez voir ça. Si vous le lisez, vous repasserez tout ce que vous avez vu de plus beau dans ce pays, à du l'autre pareil. Et la sagesse a cherché une demeure et l'a trouvée par ici, pour se répercuter ensuite dans le monde entier. L'expérience que nous faisons en ce dimanche, alors, il faudrait que nous puissions dire, comme il est dans la première épître de Saint Jean au début, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons cette vérité éternelle qui était tournée vers le Père, qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Alors évidemment, nous sommes ici devant le mystère de la Trinité. Et beaucoup pensent que la Trinité, c'est comme un monothéisme dévalué. Alors qu'au contraire, nous voyons dans le mystère de la Trinité, le chrétien a une confidence que Dieu a réservée pour la plénitude des temps. Il nous révèle pas seulement qu'il est un, mais il nous révèle comment il est un pour que nous puissions vivre de cette unité, qu'il soit un comme nous sommes un. Et c'est cette charité que décrit saint Paul dans l'épître aux Corinthiens que nous avons déjà lu, là. La charité sans quoi tout n'est rien. Et qui transfigure l'existence. On ne peut pas regarder ce mystère, oui, c'est comme le soleil qui est là, éblouissant, mais c'est le soleil qui donne de la couleur à tout ce qui est en contrebas. Et ce mystère de la Trinité, alors, n'a pas de raison, stimulé par la foi, les plus grands penseurs chrétiens ont marché dans cet océan de lumière. Ils ont dit que c'était la relation, ils ont élaboré une philosophie de la relation à partir de cela. Chaque personne n'existe que comme élan vers l'autre. Tenez, un théologien un peu poète, regardez tous ces oiseaux-là. Il disait, imaginez un peu un oiseau qui ne serait que vol. Et alors la Trinité, ça transfigure toute notre vie. On est appelé, dans la réalité la plus banale de l'existence, à exorciser l'égoïsme pour petit à petit devenir comme Dieu, là, sans égoïsme, relation vers l'autre, relation vers Dieu. N'exister que comme relation vers l'autre, que comme trouver la consistance de notre personnalité dans la relation. Je vais vous raconter une petite histoire là, qui est vraie, que j'ai entendue. Il y avait un prédicateur célèbre qui s'appelait autrefois le père Gourbillon. Et il a fondé la vie catholique, la vie maintenant. Et le père Gourbillon était un prédicateur célèbre. Et puis alors un jour, il prêchait, c'était au temps où les gens avaient des livres de messe et où le prêtre montait en chaire. Alors il expliquait aux gens comment se servir du missel pendant la messe. Et alors, pendant son sermon, il y avait un monsieur là qui avait l'air de s'embêter comme c'était pas possible. Et rien de plus démoralisant pour un prédicateur que de voir quelqu'un qui regarde sa montre, qui baille, enfin c'est bon. Alors intrépide, il était intrépide, ce père Gourbillon, tenait un jour, il a été renversé par un camion. Et dans le journal de la province, on a eu une petite notice, le père Gourbillon a été renversé par un camion, point, le camion est en réparation. Bon, alors intrépide, il s'approche du monsieur, puis il fait une leçon particulière. Il dit, oui, maintenant c'est l'offertoire, et puis bientôt ça va être la préface, c'est la préface de tel temps liturgique, et puis ensuite ça va être le canon de la messe et puis la communion et puis vous trouverez ensuite vous retrouverez le propre de ce dimanche. Bon, alors le monsieur très poliment lui donne sa carte de visite, il sort dans sa poche. Le soir, il vide ses poches, François Mauriac. Alors, il n'a pas perdu le nord pour autant. Il avait publié une petite brochure sur la Trinité. Alors, il lui a envoyé avec comme dédicace « Enfin, une famille qui s'entend ». Quand on connaît le mystère Frontenac, le nœud de vipère, eh ben oui, Dieu n'est pas un solitaire. Et on est appelé à le voir comme une famille, comme une harmonie. Et quand on dit qu'il soit un comme nous sommes un, ce n'est pas une vague comparaison, parce que c'est le mystère même de Dieu qui vient comme envelopper les communautés chrétiennes. Et les communautés chrétiennes sont appelées à vivre une charité qui est comme une épiphanie de Dieu. Et dans les Actes des Apôtres, on voit les premiers chrétiens dans deux tableaux idylliques, là, vivre cette charité et devenir comme un pôle d'attraction pour les gens qui les voient vivre. Voyez comme ils s'aiment. Ce n'est pas un rébus pour, comme ça, meurtrir notre intelligence. C'est au contraire un océan de lumière dans lequel nous sommes invités à pénétrer à part de raison. Fides querens intellectum, Saint Anselme. La foi stimule l'intelligence à marcher à part de raison dans l'océan de lumière là, qui est proposé par les mystères et par le mystère de la Trinité. Alors ce paysage est merveilleux là. On va redescendre, et puis ici nous sommes sur l'autre rive, comme on dit dans l'évangile. On va aller voir un petit peu ce que c'est que l'autre rive.
Précisément, oui. Là où nous nous trouvons, c'est le plateau du Golan. Donc.
C'est le plateau du Golan, oui. On a monté le Yarmouk, hein, qui est la frontière, là, entre la Jordanie et puis... C'était autrefois la Syrie. Et alors, moi j'ai connu une époque où alors les Syriens étaient ici, puis les Israéliens, tout le temps, il y avait des coups de feu. Et plus au nord, alors il y a 7000 hectares de terre fertile récupérés sur les marécages qui étaient sous le feu de cette ligne Maginot. Alors les Israéliens n'y ont pas été de main morte. En 3 jours, ils ont détruit tout cela. Et puis toutes ces constructions-là... Bon, enfin, je ne veux pas me lancer dans la politique. Ah oui, alors l'autre rive, ça a une signification politique. Vous voyez, il y a une terrasse d'alluvion là-bas. C'est le Wadi Samak. Alors l'autre rive se partage en deux secteurs très, très différents. Ici, c'est le pays des païens. Tenez, on imagine très bien ici l'histoire des cochons. Justement, des païens qui sont tellement païens qu'ils mangent du cochon. Et certainement que là-dedans, il y a une critique. Qui c'était les païens au temps du Christ? C'était les Romains. Et les Romains étaient personnifiés par la Legio Decima Fretensis, la 9e légion. Fretensis, ça veut dire qu'il vient du détroit là, entre la Sicile et puis le bout de la botte. Et la présence romaine, et alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'emblème de cette Decima Legio Fretensis, c'était le sanglier. Alors du sanglier au cochon, il n'y a pas loin. Alors Jésus va sur l'autre rive, dans ce pays des païens. Et puis alors, on va lire l'évangile tout à l'heure, on sera peut-être mis au bord du lac pour ça, mais vous imaginez très bien la scène ici des cochons qui se précipitent dans le lac. Et puis alors, au nord de cette terrasse d'alluvion, vous avez l'autre rive dans la région de Bethsaïde. Et alors là, c'est l'endroit où Jésus invite ses apôtres à se reposer après la mission fatigante qu'ils ont faite. Alors ils traversent le lac d'ouest en est, ils débarquent sur l'autre rive, et puis la foule, on imagine ça très bien, court, et puis ils viennent là pour se reposer, ils trouvent une multitude, et c'est dans ce contexte-là, dans ce désert, mais qui n'est pas du tout le désert que nous avons vu dans le sud. Le désert a une signification théologique, là, et Jésus apparaît comme le vrai Moïse qui multiplie, qui donne le pain, qui donne la manne aux foules dans le désert. Et quand on a une culture biblique, ce signe est le plus impressionnant, le plus révélateur, et vous avez remarqué que c'est après que les autorités du peuple lui demandent un signe venant du ciel. Alors, gémissant dans son esprit, il s'embarque pour l'autre rive, et il dit, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Alors, on va aller lire un petit peu, on va retrouver Jonas, là, au bord du lac. On va descendre sur le lac, là, depuis ces plateaux, et on va passer, vous allez voir, en contrebas, un tel impressionnant, il ressemble un peu à Masada. C'est une ville qui s'appelle Hippos, en grec, ou qui s'appelle Susita, en araméen. Sous, c'est le cheval, Susita. Et c'est la plus au nord des villes de la Décapole. Tenez, voilà, on pourrait peut-être parler un petit peu de la Décapole, hein, les 10 villes. C'est un ensemble administratif qui a été mis au point par Pompée, qui évoluait par ici vers les années 60 avant Jésus-Christ. Alors, il a créé un ensemble administratif de villes franches, de villes grecques, et dont 9 étaient en Transjordanie, Pella par exemple, et puis une, et celle-ci est la plus au nord. Alors, nous avons rencontré une, on est passé à proximité, c'est la ville de Bethshan, qui s'appelait à cette époque-là Chitopolis. Alors, la Décapole était peuplée par des païens, et Jésus, on parle beaucoup de la Décapole dans les évangiles. Il traversait la Décapole. On peut se demander par où il passait quand il voyageait de Galilée en Judée. Il semble qu'il ne passait que exceptionnellement par la Samarie. On ne saurait même pas si Saint Jean et Saint Luc ne l'avaient pas dit explicitement. Mais il passait probablement par la vallée du Jourdain, surtout que le climat est beaucoup plus agréable. Et encore aux fêtes de Pâques et à la fête de Soukhot, le temps commence déjà à devenir instable. Et même lorsque Lazare est malade, lorsqu'il apprend la nouvelle, eh bien il est en Transjordanie. Et il ne faut pas oublier que Hérode Antipas, qui régnait sur la Galilée, régnait aussi sur la Pérée. Pour des raisons à la fois climatiques et politiques, on peut penser qu'il voyageait plutôt par la vallée du Jourdain. Maintenant, interroger les gens qui ont fait des recherches sur le sujet. Maintenant, nous allons descendre sur le lac, parler un peu de l'autre rive, là. Et nous allons voir en contrebas cette ville de Hippos d'abord, et puis ensuite vous verrez une plaque qui indique Geshur. Ça vous dit quelque chose, le pays de Geshur?
C'est là où Absalom était parti se réfugier de la colère de David.
Bravo. Oui. Pour comprendre l'histoire d'Absalom que je feuillette maintenant, il faut commencer au chapitre 13 des livres de Samuel. Absalom est amoureux fou d'une fille de David, qui n'est que sa demi-sœur, qui est d'une autre mère. Et Amnon est amoureux fou de Tamar, qui est la sœur d'Absalom. Et alors il est tourmenté, etc. Et il a un sale petit copain, il faudrait dire, nommé Yonadab, qui était un homme très avisé. Il fait penser un peu au serpent de la Genèse. Là, on a rapproché les deux récits dans certains manuels modernes. D'où viens, fils de roi, que tu es si languissant chaque matin? Ne t'expliqueras-tu pas? Amnon lui répondit, c'est que j'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. Alors Yonadab lui dit, c'est pas difficile, mets-toi au lit, fais le malade, et quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets que ma sœur Tamar vienne me donner à manger. Elle abrètera le plat sous mes yeux pour que je le voie, et je mangerai de sa main. Il y a dans la Bible des récits extrêmement crus. Mais moi j'ai l'impression que ça peut être l'occasion aussi de parler avant qu'il soit trop tard, disons, de certains problèmes. Et la brutalité des récits, moi je crois, ça peut rendre service, ça peut être l'occasion de faire des mises au point. Et il y a des histoires plus dangereuses encore que celles du petit chaperon rouge, comme vous allez voir. Alors, Amnon file malade, il faut se méfier, enfin, les filles, là, des garçons qui font semblant d'être malades. Et puis, vous devinez ce qui se passe, hein, apporte le plat dans l'alcôve que je me restaure de ta main. Et puis, comme elle lui présentait à manger, il la saisit, lui dit, viens, couche avec moi. Il n'est pas par quatre chemins. Alors, mon frère, ne me violente pas, on n'agit pas ainsi en Israël, ne connaît pas cette infamie, où irais-je porter ma honte? Alors, il ne voulut pas l'entendre, il la maîtrisa, et lui faisant violence, il coucha avec elle. Alors, Amnon se prit à la haïr très fort. La haine qui lui voua surpassait l'amour dont il avait aimé. Et Amnon lui dit, lève-toi, va-t'en. Il lui dit, mon frère, me chasser serait pire que l'autre mal que tu m'as fait. Il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit, débarrasse-moi de cette fille, jette-la dehors et verrouille la porte derrière elle. Alors Tamar, son frère Absalom, devine ce qui s'est passé. Et alors Absalom médite une vengeance recuite. Et la vengeance se passe là à Baal Hatzor. On est passé à côté là l'autre jour, grâce à cette route stratégique là qu'on a prise pour traverser la Samarie. Baal Hatzor, c'est le point culminant de la Samarie. Et alors Amnon est tué par Absalom au cours de ce festin. Et Absalom se rend chez Talmai, fils d'Amihud, roi de Geshur. Alors Joab, c'est le chef d'état-major, on peut dire, de David, il trouve que c'est dommage, Absalom est peut-être le meilleur successeur possible de David. Et alors, il va chercher une femme intelligente, il y en a comme ça dans la Bible, et puis il lui dit, va trouver David, tu vas raconter une petite histoire. Moi, j'avais deux enfants, deux garçons, il y en a un qui a tué l'autre, et les anciens de la ville se sont réunis, ils veulent tuer celui qui reste, pour le punir. Ça va pas arranger les choses, j'avais deux garçons, j'en ai encore un, si on le tue, j'en aurais pu. Alors David, qui est pas bête, il comprend que la femme est téléguidée par Joab. Et puis Absalom revient. Il demeura 2 ans à Jérusalem sans être reçu par le roi. Alors Absalom devait avoir une séduction tout à fait extraordinaire. Écoutez ce tableau qui décrit Absalom. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau qu'Absalom, à qui on put faire tant d'éloges. De la plante des pieds au sommet de la tête, il était sans défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, il se rasait chaque année parce que c'était trop lourd. Alors il se rasait. Il pesait sa chevelure, soit 200 shekels, poids du roi. Alors David, au bout d'un certain temps, n'en peut plus. Il embrasse Absalom, il lui pardonne, etc. Il rentre en grâce et ça ne fait que précéder de quelques semaines la fameuse révolte d'Absalom. Le cœur des gens d'Israël est passé à Absalom. David s'enfuit, vous direz tout ça. Je vais soupçonner simplement que c'est l'intérêt. On a parlé, on parlera à Jérusalem de la fuite de David. Alors, vous lirez tous les avatars de cette révolte. Et puis, pour finir, Absalom est tué contre la volonté de David par Joab. Et quand David apprend la nouvelle de la mort d'Absalom, le roi frémit. Chapitre 19 de 1 Samuel. Il monta dans la chambre supérieure de la porte et se mit à pleurer. Il disait en sanglotant, « mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ? Absalom, mon fils, mon fils. » Alors tout le monde est furieux, c'est comme si on avait une défaite, on lui sauve son royaume, et puis voilà qu'il prend le deuil de son fils Absalom, « mon fils Absalom, Absalom, mon fils. » Si Absalom vivait, dit Joab, et si nous étions tous morts, tu trouverais ça très bien. Eh bien, voyez-vous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur d'un père, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce qu'il y a dans le cœur du père de l'enfant prodigue, si on ne lit pas ce genre de récit, si on les met entre parenthèses. C'est peut-être une très bonne occasion de parler, encore une fois, avant qu'il soit trop tard, de certains problèmes. Il ne faut pas gâcher ce qu'il y a de plus beau. Et puis, ça nous permet de comprendre l'amour qui habite le cœur de Dieu. On devrait lire ça dans la liturgie du Sacré-Cœur. C'est des récits comme ça, en première lecture. Avant de nous montrer le cœur de Dieu transpercé, on a lu ça à Sodome et Gomorrhe, c'est le cœur de Dieu qui est bouleversé. Et il a pour chacun de nous un amour semblable à celui qu'il portait à Absalom. Oui, alors chaque fois que je parcours ce pays qui est tragique, on voit partout des stigmates, des guerres qui se sont succédées, des blocos anéantis, des villages nouveaux, et puis des villages anciens complètement abandonnés. Et alors les gens se mettent à discuter politique. Ils disent « Ah, ces salauds qui ont fait ceci, les autres qui ont fait cela, etc. » Alors ça m'a donné l'envie un jour de lire le prophète Amos. Le prophète Amos, c'est un poli là, qui traite les dames de Samarie de vaches de Bachan, le plus impoli de tous les prophètes. Il met les pieds dans le plat. On l'a vu avec le chanoine directeur du sanctuaire de Bethel, ou de vous rappeler. Alors ici, il commence par increper tous les pays des environs. On est sur la route de Damas, il commence par Damas. Pour 3 crimes de Damas et pour 4, je vais décider sans retour. Parce qu'ils ont foulé Galad avec des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison d'Azaël. Il dévorera les palais de Ben-Hadad, je briserai le verrou de Damas, je supprimerai l'habitant de Bicaat-Aven, et le peuple d'Aram sera déporté à Kir. Parole du Seigneur. Alors tout le monde applaudit, ce salaud, non, qu'est-ce qu'il mérite. Après ça, il se tourne en direction du sud-ouest, et puis c'est Gaza et la Philistie qui prennent le paquet. Ainsi parle le Seigneur, pour 3 crimes de Gaza et pour 4, je vais décider sans retour, parce qu'ils ont déporté des populations entières pour les livrer à Edom, j'enverrai le feu dans le rempart de Gaza, etc. Je tournerai ma main contre le reste des Philistins périra. Bravo, tout le monde applaudit. Alors ensuite, il se tourne vers le nord-ouest, et c'est Tyr et la Philistie qui en prennent pour leur grade. Ainsi parle le Seigneur, pour 3 crimes de Tyr et pour 4, je vais décider sans retour, parce qu'ils ont livré à Edom des populations entières de captifs sans se souvenir d'une alliance entre frères. J'enverrai le feu dans le rempart de Tyr et devora ses païens. Alors c'est comme ça pour Edom, là-bas au sud-est, c'est comme ça pour Ammon à l'est, c'est comme ça pour Moab au sud-est, tout le monde applaudit de plus en plus fort, et puis paf, tout d'un coup il se tourne, pour 3 crimes d'Israël et pour 4 je l'ai décidé sans retour, parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales, parce qu'ils écrasent la tête des faibles sur la poussière de la terre et qu'ils font dévier la route des humbles, parce que fils et père vont à la même fille afin de profaner mon saint nom, parce qu'ils s'étendent sur des vêtements pris à gage, etc., et qu'ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils ont frappés d'amende. Alors, il dit, je vais vous broyer sur place comme broie le chariot plein de gerbes. La fuite manquera à l'homme agile, l'homme fort ne déploiera pas sa vigueur, et le brave ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne tiendra pas, l'homme aux pieds agiles n'échappera pas, celui qui monte à cheval ne sauvera pas sa vie, et le plus courageux d'entre les braves s'enfuira tout nu ce jour-là, oracle de Dieu. Et alors, Amos est tellement dur qu'il va jusqu'à mettre en cause par cette élection dont nous avons étudié le caractère imprescriptible, vous vous rappelez ? Écoutez cette parole que Dieu prononce contre vous, fils d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je n'ai connu que vous de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtirai pour toutes vos fautes. Et dans la mesure où nous nous considérons comme le peuple élu ou héritier de ce peuple élu, il faut savoir que c'est dangereux. Parce qu'on a à être fidèle à la parole de Dieu et que plus on est initié à la connaissance de Dieu et de ses desseins, plus notre vie doit répondre à des exigences fortes. Vous voyez, au lieu de discuter comme ça, qu'est-ce qui est responsable de quoi, on n'en finit pas. Il faut mieux se sentir interpellé et puis savoir que c'est le problème de la paille de la poutre dans l'évangile. Hein. Discours sur la montagne, on est appelé à lire aussi aujourd'hui.
À propos de ce passage que tu viens de nous lire, le plus brave s'enfuira tout nu.
Oui.
On y a vu, enfin, on Marc, dans l'évangile de Marc, hein, l'allusion quand le jeune homme s'enfuit le soir.
C'est ça, oui. C'est plein, le Nouveau Testament est plein. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est déjà comme ça. On appelle ça le style ontologique. Vous voyez, les gens connaissent la Bible par cœur, et alors ils supposent que la Bible est connue aussi de ceux à qui ils s'adressent. Et alors partout, il y a des allusions.